Placebo, une émission proposée par Emmanuel Klein.
Et bienvenue dans Oxebo, on va causer bande dessinée pendant un quart d'heure pour la dernière émission en direct de la saison avec un invité en direct. Bonjour Guillaume Mazurage.
Bonjour Emmanuel.
Et merci d'être venu aussi dans ce studio aujourd'hui pour parler de Sea Shepherd, votre nouvelle série qui vient de sortir chez Robinson. Votre nouvelle et votre première série, premier album d'un artiste qui a un peu un parcours atypique. Vous avez fait pharmacie au départ et puis je vous retrouve dessinateur de bande dessinée. Comment c'est arrivé ça?
Et comme toujours, par le hasard, ou par la chance. Pharmacie, oui, parce que je vais faire ça très court, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. J'ai fait pharmacie, je suis le parcours habituel, un peu en venant d'une famille médicale. Donc vous savez, on est toujours un peu influencé comme les enfants de famille d'avocats. Toujours, toujours. Et puis ensuite, vers la fin de pharmacie, je discutais un peu, le père d'un de mes amis me guidait pas mal dans la finance en me disant, tu devrais, si tu veux pas faire du comptoir et que t'es intéressé par les voyages ou les expériences, fais une école de commerce, comme ça tu pourras t'intéresser ou ouvrir à d'autres portes dans l'industrie. Du coup, école de commerce. J'ai été engagé dans une boîte de conseil aux États-Unis. Et finalement, le hasard a voulu que je rentre en France, je me rapproche un petit peu de ma famille, j'essaye de nouvelles expériences. Je voulais faire quelque chose de plus créatif, de plus centré, parce que mine de rien, j'ai un peu suivi le mouvement, en fait. Et le dessin est venu par le hasard. J'ai un ami qui faisait un de ses mariages, qui m'a demandé de faire son faire-part de mariage, qui était un gros mariage.
Là, vous voyez pas mes yeux écarquillés, c'est de la radio, mais je vous assure.
Ils sont écarquillés, je confirme. Et ce faire-part a un peu circulé, et j'ai reçu des appels, des coups de fil après, en me disant, est-ce que vous ne voudriez pas faire un peu d'illustration, et si, et ça.
Ah, c'est marrant, ça.
Ça a démarré comme ça. Ça, c'était il y a 3 ans.
Donc, le talent naturel.
Naturel, non, parce que depuis que je suis enfant, j'ai toujours dessiné. Ah. Je peux l'avouer, aujourd'hui, j'ai dessiné beaucoup, mais... mes enseignants sur la fac de faculté, sur toutes les tables, coupables. Et non.
Et mais lecteur de bande dessinée, cela dit aussi parallèlement, par exemple.
Toujours. Ah voilà. Toujours.
La BD n'est pas arrivée par hasard. Le dessin au fil du temps, mais la passion pour la plaisir de lecture de bande dessinée depuis toujours.
Mais les deux en même temps. Enfin, depuis que je suis enfant, mon père était un BD-phile, donc on avait de la bande dessinée partout. C'était très Tintin, Black et Mortimer, Lucky Luke, Peyo, Jacob, Maurice, tout ça à la maison.
Les grands.
Donc toujours, et moi j'aimais beaucoup le dessin, et ce que je refaisais souvent, c'est que je redessinais les planches ou les dessins ou les personnages qui me plaisaient. D'ailleurs, quand j'ai rencontré Pierre Christin et Jean-Claude Mézières qui me suivent...
Les auteurs notamment de la série Valérian et Laureline, gros succès de science-fiction, de bande dessinée.
Qui sont deux auteurs de génie et deux amours dans le domaine privé. La première chose que je leur ai dit, parce que j'avais un peu le syndrome de l'imposteur, j'étais timide, et je leur ai dit, j'ai pas fait d'école de dessin, est-ce que ça va me tomber dessus? Ils m'ont dit, mais non, pas du tout, c'est beaucoup mieux. Les écoles de dessin, justement, ça forme un peu le trait, comme l'école Disney, tu fais souvent la même chose. Quand t'es autodidacte, tu fais ta ratatouille, ta recette, et puis finalement, t'accouches d'un truc plus perso, c'est pas mal, c'est vivant, c'est bien.
Voilà. Et puis comme vous parliez, vous aimiez les voyages, et bien précisément dans cette bande dessinée, si j'ai parlé des questions de voyage. Parce que
Absolument.
Si je sais pas, c'est une ONG. Alors, vous pouvez nous présenter quelques mots, si je sais pas, vous connaissez cette association déjà?
Depuis, je pense, mes 14 ans.
Ah!
Parce que Paul Watson, vous savez, c'est un personnage authentique.
Donc créateur donc de Sea Shepherd.
Exactement. Sea Shepherd, c'est une association, une organisation qui a plus de 40 ans. 40 ans tout, je crois qu'ils sont fêtés ça.
77. Donc,
77. 43. 43. Vous êtes meilleur que moi. Et ça a été créé par Paul Watson, qui est un ancien de chez Greenpeace. La légende et l'histoire dit qu'il fait partie des, entre guillemets, pères fondateurs de Greenpeace. Et qu'il est parti après un désaccord, considérant que ça manquait un peu d'action forcée, ou de prise en main, on va dire, directe. Et il a créé cette organisation au début pour sauver notamment les baleines qui se faisaient harponner dans les grandes régions australes et pour leur sauvegarde. Et ça a démarré comme ça. Il a eu quelques coups d'éclat très forts avec des baleiniers japonais notamment, ce qui est à l'origine de sa légende, puisqu'il y a une véritable légende autour de ce monsieur. Mais elle est justifiée. Parce que ce qu'ils ont fait, ils ne prônent pas la violence, ils prônent toujours l'action, ils essayent d'intervenir, ils essayent de protéger ces animaux dans des zones qui sont toujours protégées, ils interviennent toujours vis-à-vis de personnes qui ne respectent pas la législation.
Oui, contre les braconniers en fait.
Toujours.
Pour protéger ces espèces. C'est une ONG donc écologique.
Absolument.
Pour la protection des animaux au
Exactement.
Départ.
Exactement.
Et alors vous vouliez rencontrer Paul Watson au départ, simplement faire un reportage finalement, une interview de lui, savoir ce que vous alliez en faire en BD.
Non, c'était un peu plus direct. Pour répondre rapidement à la question, du coup, depuis 14 ans, je les suivais. Donc oui. Paul Watson, je le connaissais, la légende du pirate écolo qui sillonnait les mers. Et quand j'ai discuté avec Pierre Christin il y a 2 ans, en fait, je suis arrivé avec un projet un petit peu plus différent. Pierre me disait, tiens, entraîne-toi à faire de la narration, fais des pages tous les jours. Et du coup, je me suis amusé à faire quelques pages de Moby Dick. Mais perso, pour le fun, hein, j'avais grimé
d'adapter
des...
D'adapter le roman, pour adapter
le roman. Oui, surtout les scènes d'action. C'était vraiment un exercice de style, on va dire. Parce que Pierre donne des petits exercices de style. Et Pierre m'a dit, écoute, Moby Dick, pour le coup, c'est une ressucée. C'est ce qu'il met d'ailleurs dans,
ça a été déjà fait, surtout qu'il y en a des adaptations de Moby Dick en bande dessinée.
Mille fois en film, en livre, en BD, toutes les ressucées possibles. Il m'a dit, non, Moby Dick, je vais pas le citer exactement. Il a dit, ça fait chier. Non, faut faire un truc qui colle plus à l'actualité. Intéresse-toi aux chasseurs de chasseurs, ceux qui font de la politique, de l'écologie, point tendu, bouclier en avant.
Et là, du coup, Paul Watson.
En effet, il parlait du Sea Shepherd, et moi je disais, mais oui, Sea Shepherd, je les connais depuis que je suis ado. Donc voilà, Paul Watson, après j'ai fait le circuit habituel, c'est-à-dire que j'avais pas de contact. Donc je les ai cherchés, espionnés, j'ai trouvé une cinquantaine d'adresses mail sur Internet, et j'ai fait à l'ancienne, j'ai envoyé un mail en me présentant, disant que j'avais un projet. Je ne savais pas encore pour quelle mission, mais je savais qu'ils en avaient plusieurs et je voulais les suivre quelque part et faire une BD qui soit pas de la propagande, mais qui soit juste.
Parce que dans la bande dessinée, le petit dessinateur qui est à bord du bateau, etc., et qui raconte l'histoire qu'il vit, en disant c'est une vraie aventure, mais
c'est
vécu d'intérieur, c'est vous.
Absolument.
Vous avez embarqué vraiment sur le bateau. Oui. Ce qu'on raconte dans cette bande dessinée, vous l'avez vécu, vous êtes allé avec eux, aller chasser et surveiller les braconniers, sauver les animaux, couper les filets.
Tout est vrai, sauf la fameuse scène de course-poursuite à la fin, qui est authentique, mais que je n'ai pas vécu. C'est pour ça que mon personnage, d'ailleurs, il est planqué dans la cabine, il fait rien du tout. Tout est vrai.
Mais ça, c'est quelque chose qui arrive dès que les choses arrivaient par hasard. Typiquement ça, vous vouliez faire une bande dessinée, vous vous retrouvez aventurier en pleine mer.
Un peu. Je suis le premier surpris. Hein. Vous savez, mon CV ressemble plus vraiment à grand chose.
Mais... pas grave. Non, mais c'est intéressant. Et c'est bien que la bande dessinée, aujourd'hui, on peut raconter tout et absolument tout ce qu'on veut en bande dessinée.
Absolument.
Et là, typiquement, vous le prouvez. C'est-à-dire que vous êtes allé vivre une expérience, vous la racontez en bande dessinée, mais en même temps, vous témoignez du travail de Sea Shepherd. Mm-hmm. Et c'est une bande dessinée qui peut s'adresser aussi pour les enfants, pour les ados, les adultes. Enfin, c'est vraiment tout public. C'est la vraie BD
tout
de
public.
7 à 77 ans, celle-là même.
Et même
plus, même beaucoup plus, maintenant jusqu'à 120 ans, si on veut.
Mais
c'est vrai que voilà, moi j'ai appris beaucoup de choses évidemment sur cette association. J'ai notamment appris l'existence du vaquita, qui est une espèce rare, mais en voie d'extinction, dont j'avais jamais entendu parler. C'est-à-dire, si elle est rare.
Elle est plus
non,
que rare.
Non, parce que je connais tous les poissons. Mais...
elle sera bientôt aussi rare que le dodo, j'ai envie de dire. Il en reste, selon les estimations, entre 10 et 30, c'est dire, puisqu'on en voit une fois tous les 5 ans. Donc c'est un animal qui est vraiment au bord de l'extinction. Ça fait un petit peu mal au cœur, j'ai envie de dire.
D'autant que les braconniers ne veulent même pas lui.
Non, mais ils s'en foutent.
C'est ça.
Mais c'est un dommage collatéral. Il se passe quelque chose d'un peu semblable dans le golfe de Gascogne chez nous, parce que ce sont des animaux qui sont des victimes de l'industrie. Mais ce sont des victimes collatérales, puisqu'elles n'ont aucune valeur commerciale. Le vaquita, tout le monde s'en fout, même les braconniers, puisque les braconniers, eux, sont intéressés par un poisson qui s'appelle le totoaba, et qui coûte 20 ou 30 000 dollars le kilo en Chine.
Parce que la vessie sert pour des produits pharmaceutiques, c'est ça?
Oui, c'est surtout utilisé comme un mets assez délicat. C'est en effet dans la médecine traditionnelle, mais aussi dans la culture gastronomique chinoise, vous savez, là, dans le traitement du Covid, ils ont prodigué la bile d'ours comme traitement. Donc, leur médecine traditionnelle fait appel à toutes sortes d'ingrédients plus ou moins saugrenus de temps en temps. Et les totoaba, la vessie natatoire de totoaba en fait partie. Sauf
D'accord.
que ça s'arrache à prix d'or. Parce que, pour faire bref, dans la mer de Chine, vous aviez un poisson qui s'appelait le baaba avant, qui était le semblable du totoaba. Il a été exterminé en 50 ans, il n'y a plus du
à
tout.
À cause de ça, déjà?
Oui, exactement. Ah. Et ils ont découvert ensuite le totoaba dans le golfe du Mexique, qui est exactement le même poisson, du moins qui a les mêmes propriétés. Et du coup, le cours s'est envolé, puisqu'il a remplacé.
Exactement. Mais on ne le trouve que dans cette région-là, c'est très local.
Oui.
C'est un poisson vraiment qui ne vit que dans ce
que
golfe.
Là, que dans cette zone, exactement dans la même zone que le fameux vaquita, cette baleine naine, qui du coup morfle, j'ai envie de dire, de la même façon, parce qu'ils mettent des filets partout. Partout. C'est une toute petite mer et il y a des filets dans tous les sens. Donc évidemment, c'est un massacre.
Mais cela dit, le Sea Shepherd, finalement, il aide la marine. Parce qu'il y a une police maritime qui est censée empêcher ces braconniers donc de tuer ces animaux. Elle s'en sort pas, elle a pas assez de moyens, la police maritime. L'ONG, du coup, ils ont besoin de l'ONG pour les seconder, comment faire?
Parce que ce n'est pas aussi, l'opinion publique n'est pas aussi engagée vis-à-vis de ces animaux que chez nous. D'abord, c'est le Mexique. C'est une région assez pauvre du Mexique, en plus. C'est une région où on essaye de faire la fin du mois, de se nourrir, de pouvoir nourrir sa famille. Donc, quand on vient dire qu'une sardine, ou en l'occurrence, un totoaba, mais bon, pour eux, c'est un poisson quelconque, vaut 25 000 dollars le kilo, et qu'une ONG ou des gens arrivent en disant arrêtez de le pêcher, c'est une bestiole qui va disparaître. Évidemment, le discours s'oppose parce que, bon, bah, voilà, chez nous, ce serait différent aujourd'hui parce que on est très sujet et soucieux de l'écologie et de, enfin, très soucieux, ça dépend, parce que les dauphins dans notre golfe de Gascogne, on pourra en parler longtemps. Mais bon, voilà, la communication n'est pas la même, on va dire ça comme ça.
Guillaume Mazura, je vous avais raconté donc cette histoire en bande dessinée. Sea Shepherd, c'est une première expérience en BD. C'est une BD de 56 pages, format classique, etc., qui vient d'être publiée donc aux éditions Robinson. C'est un tome 1. C'est-à-dire que vous avez d'autres choses à raconter avec le Sea Shepherd toujours? Vous avez vécu d'autres aventures avec eux?
Peut-être. Non, pour le moment, Paul Watson, quand j'ai rencontré, m'a dit, écoute, on a 15 bateaux. 15 bateaux, ça peut être 15 albums.
C'est-à-dire qui sillonnent des mers différentes, des régions différentes. Ils sont un peu partout dans le monde.
Parfois, ils se regroupent par deux ou trois si la mission est un peu intense. Par exemple, dans le golfe du Mexique, là, pour l'opération Milagro, ils sont trois. Il y a le Bob Barker, le Sam Simon et le John Paul Desjoria. Mais pas tout le temps. Parfois, ils sont deux, parfois, ils sont un. Mais sinon, il y en a partout. Il y en a sur les côtes de l'Amérique du Sud. Il y en a au large des côtes africaines. Il y en a sur la Grande Barrière de Corail, il y en a en Asie, il y en a en France. Donc, ils sont vraiment partout. Partout, ils avaient arrêté les campagnes en Antarctique qui étaient leurs plus célèbres. Parce que vous savez que le Japon s'est retiré de la pêche à la baleine internationale. Maintenant, ils ne pêchent que dans leurs eaux territoriales. Ce qui est entre guillemets une bonne nouvelle. Parce que du coup, ils pêchent sur une zone plutôt limitée. Ils n'attachent plus
de
sanctuaires. Leur propre zone, oui.
C'est ça. Mais le Sea Shepherd ne peut pas intervenir dans des endroits où c'est autorisé.
Exactement. Ouais. D'ailleurs, Paul Watson avait fait un mail en disant c'est plutôt une bonne nouvelle parce qu'à partir du moment où ils vont plus dans les sanctuaires de reproduction des baleines et qu'ils se cantonnent à leur propre zone de pêche, dans un sens, c'est une victoire parce qu'il y a au moins un endroit où les baleines sont à l'abri.
Bon, en tout cas, dessinateur donc de bande dessinée engagé pour celle-là. Vous auriez envie de faire d'autres choses? Vous avez d'autres projets, d'autres envies? Qu'est-ce qui vous trotte dans la tête et dans le crayon?
Alors, récemment, mais c'est tout nouveau, donc je ne vais pas trop m'avancer là-dessus, mais je me suis un petit peu rapproché de Disney. Parce que je suis un Disney maniaque, j'aime beaucoup toutes ces aventures. Donc, pour le moment, c'est en cours. Je ne peux pas en dire vraiment plus. Je ne vais pas me mettre l'œil, on va dire ça. Sea Shepherd, je pense à la suite. Je pense à la suite et il pourrait y en avoir une. Pour le moment, je vois un peu avec l'éditeur. Je sais que Sea Shepherd, notamment Watson, avec qui je suis toujours en contact, serait d'accord parce que l'idée était toujours de faire une bande dessinée sans que ce soit de la propagande, mais qui soit aussi en accord avec eux. Je voulais pas faire un truc dans leur dos.
Là, vous leur avez envoyé, ça leur a plu?
Oui.
Ouais, ça.
Vous savez qu'ils m'ont jamais censuré. Je m'attendais à ce que l'on me dise, est-ce que tu veux pas changer ci ou ça? Jamais.
Rien.
Jamais.
Ah, vous avez envoyé les planches au fur et à mesure, pas seulement l'album terminé.
Je les envoyais par paquet de 5 ou ça dépendait parfois en fonction du rythme. Mais ils ont suivi. Et donc, la suite peut-être en cours. Et puis, il y a un ou deux projets perso aussi. Mais bon, c'est tout nouveau. Donc, voilà.
Mais vous sentez vraiment auteur de bande dessinée maintenant ou vous voulez pas retourner en pharmacie ou dans la finance? Ou c'est bon, ça y est?
Je vais pas mettre les pharmaciens à dos. Mais pour le moment, je m'amuse plus dans le dessin. On va dire ça.
Là, vous avez fait scénario et dessin, mais pas les couleurs.
Non. On ne veut pas tout faire.
Je pose la question.
Non, mais vous savez, je suis daltonien. Déjà, les couleurs, ça commence mal. Donc, il vaut mieux être avec quelqu'un avec qui on fait une bonne équipe, on s'amuse bien. Et en l'occurrence, Vérane, qui est ma coloriste, est une fille super. On fait une très bonne équipe. Elle change, elle corrige. Chaque fois qu'il y a un truc qui coince, c'est très agréable de bosser avec elle. Donc, ça me va très bien.
Puis, c'est une coloriste confirmée.
Voilà, absolument, absolument.
Avec d'autres, donc,
oui. Non, très
c'est l'éditeur qui vous l'a trouvé, du coup.
Exact.
Ouais,
parce que je faisais des couleurs avec un ami américain, mais c'était trop comic books et ça ne correspondait pas au style.
Vous lisez des comic books? Vous lisez quoi comme bande dessinée, vous, aujourd'hui? Vous disiez que votre papa vous avait mis dans Belkin Mortimer ou Tintin, mais depuis, vous regardez des choses plus modernes ou...
Ouais, je continue toujours de lire beaucoup de Spirou. J'aime beaucoup les Lucky Luke, je suis un petit peu. J'aime beaucoup Loisel aussi, donc je suis un peu. Mais vous savez, je vais souvent dans les boutiques de BD et je tombe par le hasard sur ce qui attire mon regard. Donc il n'y a pas de profil particulier, mais je continue toujours de m'acheter 5 à 10 albums par mois, oui.
Écoutez, vous allez vous abonner au podcast d'Oxebo sur Fréquence Protestante, vous allez voir tous les bons albums dont on parle toutes les semaines.
Avec plaisir.
Merci beaucoup, Guillaume Mazura, d'être venu aujourd'hui en direct pour nous parler donc de cette série, cet album Sea Shepherd. Donc le tome 1, c'est Milagro, c'est une histoire complète qui vient de paraître chez Robinson. C'est 56 pages, ça coûte 11,95 €. Bravo et merci d'être venu. Et puis bravo pour ce premier livre. J'ai mis évidemment toutes les informations sur la page Oxebo, sur le site de Fréquence Protestante. Vous pourrez réécouter cette émission en podcast. La semaine prochaine, on sera en vacances. Ce sera donc des rediffusions tous les thèmes, évidemment, que les meilleurs auteurs, les meilleurs bouquins. Ça, c'est Arnaud qui choisit et il fait ça très très bien. On se retrouve à la rentrée, ce sera le 2 septembre en direct. Merci beaucoup, très bel été à tous. À bientôt, au revoir.